18h sur France Culture. Le journal est présenté par Aurélie Kiefer.
Bonsoir à tous. Première perturbation dès ce soir et très forte mobilisation prévue demain contre la réforme des retraites. Dans ce journal, un entretien avec le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Olivier Dussopt, mais également le témoignage d'un salarié du privé décidé à manifester. Le gouvernement redoute aussi des violences demain. À Paris, 6000 policiers et gendarmes seront mobilisés. On fera le point avec Antoine Marette. Le sommet de l'OTAN s'achève dans un climat tendu. Les alliés ont beau afficher solidarité, unité et cohésion dans leurs déclarations communes, ils n'ont pas surmonté leurs désaccord. Et puis alors que le pape accueille des réfugiés au Vatican, 5 ONG demandent une enquête parlementaire en France. Selon elles, les droits des exilés sont bafoués à nos frontières. Explication de Cécile de Carvaz-Doué. L'épreuve de force débute ce soir face au projet de réforme des retraites visant à remplacer les 42 régimes existants par un système universel. La fronde s'est organisée et l'appel à la grève interprofessionnelle s'annonce particulièrement suivi. De fortes perturbations sont prévues dès ce soir à la SNCF. Le trafic sera également très perturbé demain à la RATP. Le trafic aérien sera touché comme les transports routiers. La majorité des syndicats enseignants se mobilisent comme le milieu hospitalier. La réforme des retraites préoccupe dans la fonction publique comme dans le privé. Anne-Laure Jumet a pu joindre David, 33 ans, il est vendeur, travaille pour une grande enseigne et va défiler à Lyon demain avec des collègues.
Ce qui fait que nous, on compte sortir dans la rue au niveau de mon magasin et de mon enseigne, c'est vraiment ce principe de retraite par points qui nous cause de fortes craintes, notamment concernant l'allongement du temps de travail et la diminution des montants des pensions de retraite. En fait, on n'a pas l'impression que ça va toucher uniquement les régimes spéciaux, hein, parce que nous, on est dans la vente, dans le commerce, et on pense qu'on va être aussi les premiers impactés par ce genre de réforme. L'allongement du temps de travail fait peur, hein, parce que mes collègues notamment qui ont entre 50 et 60 ans, physiquement, ça devient très difficile, et s'imaginer rester encore plus longtemps dans leur boulot, c'est inconcevable pour eux. Et moi, à mon âge, hein, ça me fait peur aussi, et je me dis que c'est maintenant qu'il faut taper du poing sur la table. Hein. J'essaie de motiver mes collègues à sortir, même si c'est la première fois, parce que c'est vrai que là, c'est, je pense, un thème important. Et on en discute pas mal dans l'entreprise et c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. J'entends parler de grève reconductible dans différents secteurs. Maintenant, il faut que je sois, entre guillemets, sûr que ce soit validé et suivi dans mon magasin pour pas me mettre en porte-à-faux au niveau de ma direction. Si en effet, je m'assure que je peux le faire, je peux reconduire la grève, je le ferai.
Face à toutes les actions annoncées, le gouvernement se montre déterminé. Stéphane Robert a rencontré cet après-midi Olivier Dussopt. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics s'est voulu rassurant.
Il y a des inquiétudes, nous les entendons. Il y a des interrogations, on peut aussi les comprendre. Les Français connaissent une réforme des retraites tous les 5 ans. La dernière, c'est 2014, avec une augmentation de la durée de cotisation qui va entrer en vigueur entre 2020 et 2030. Il y a eu la réforme de 2010, la réforme de 2003. À chaque fois, ça s'est traduit par une augmentation de la durée de cotisation, par une augmentation des cotisations et des taux de cotisation, par des modifications de l'âge. Donc on peut aussi comprendre que les Français, face à une réforme des retraites, se disent que le système est injuste, mais que peut-être il ne faut pas prendre de risque et ne pas le changer. Sauf que le système n'est pas viable et qu'il faut le changer.
Alors,
pour le rendre plus juste.
Précisément, s'il y a une chose sur laquelle les Français sont d'accord avec vous, c'est sur le diagnostic, hein, puisque les différentes enquêtes montrent que 70% grosso modo des personnes interrogées partagent l'avis qu'il est nécessaire de réformer ce régime des retraites, mais ils ne sont plus que 30-35% selon les enquêtes à faire confiance au président de la République et à l'exécutif pour mener cette réforme. Comment vous expliquez ce paradoxe?
C'est à nous de démontrer que la réforme que nous menons est la bonne et que nous sommes en capacité de la mener. Je crois que le président de la République, le gouvernement autour de lui et la majorité parlementaire ont démontré dans les mois qui viennent de se passer que nous n'avons pas peur des réformes. Nous faisons les réformes qui doivent être faites pour notre pays. Ça a été le cas pour la SNCF, c'est le cas pour la fonction publique. À chaque fois, nous les faisons avec un objectif double qui est d'apporter la modernisation et les changements nécessaires pour être efficaces et dans le même temps de garantir les droits, qu'ils soient individuels ou collectifs. C'est avec cet état d'esprit que nous abordons la réforme des retraites. J'entends ce que vous dites. J'entends surtout le diagnostic assez incroyable qui montre que presque 8 Français sur 10, selon les enquêtes, nous disent que le système n'est pas juste et n'est pas viable. Donc on va réparer ces deux injustices-là. Nous allons le faire pour toutes les catégories. J'ai évoqué la situation des femmes aujourd'hui. J'aurais pu évoquer la situation des agriculteurs. Et nous allons le faire aussi en tenant compte des différences qui existent. Parce que les différences qui existent aujourd'hui vont aussi conditionner la vitesse et les modalités avec lesquelles les différents systèmes vont converger. Je dis souvent que la construction d'un système universel, c'est la construction d'une maison commune. C'est une maison commune au sein de laquelle tous les cotisants auront la même pension pour un euro cotisé. On tiendra compte de la pénibilité, on tiendra compte des suggestions particulières, mais il faut vraiment être sur l'universalité et l'équité. Sauf que pour aller vers cette maison commune, nous ne partons pas tous du même point de départ. Il y a 42 régimes et 42 points de départ. Donc il faut penser les transitions. Et c'est ce à quoi s'est engagé le Premier ministre, qui précisera tout cela dans les jours qui viennent. Édouard Philippe aura l'occasion d'apporter ses garanties, d'apporter ses réponses.
Alors, on ne connaît pas les contours de cette réforme et on vous reproche beaucoup cette incertitude que vous laissez planer autour de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous n'avez pas trop tardé ?
Si nous étions allés plus vite, on nous aurait reproché la verticalité, le caractère brutal ou précipité de telle ou telle réforme. Une réforme aussi importante, et peut-être d'ailleurs qu'il ne faut pas parler de réforme, la construction d'un nouveau système de retraite qui viendra se substituer à terme aux 42 régimes que nous connaissons, avec des permanences, c'est-à-dire le système de répartition, la solidarité, mais vraiment la volonté d'équité et d'universalité, c'est véritablement un nouveau système de retraite. Ça ne se fait pas à la hussarde. Nous avons pris presque 2 ans, 18 mois, de concertation sous la houlette de Jean-Paul Delevoye. Il faut accepter de prendre ce temps. J'ai bien conscience que l'attente, c'est un petit temps d'interrogation et peut-être un temps d'incertitude. Rapidement, nous allons en sortir. Nous aurons une loi cadre au début de l'année 2020. Nous aurons ensuite un temps de discussion sur les modalités. Il y aura une date de mise en œuvre. Mais je pense que sur la base des concertations, sur la base justement de ces presque 2 ans de travail, les réponses qui seront apportées seront de nature à très largement rassurer.
Le secrétaire d'État Olivier Dussopt au micro de Stéphane Robert. Le gouvernement se montre confiant sur le fond, mais préoccupé à l'idée que les cortèges organisés demain ne soient infiltrés par des black blocs ou des gilets jaunes radicaux. Pour prévenir les violences, 6000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Le préfet de police, Didier Lallement, s'attend à la présence de casseurs dans la capitale.
Quelques milliers sur l'ensemble du territoire et quelques centaines à Paris, des gilets jaunes radicaux et des black blocs, selon le ministère de l'Intérieur. Réponse de la préfecture de police de Paris, 6000 policiers et gendarmes mobilisés demain, 180 motos, c'est le chiffre maximal possible de 2 roues motorisées pour les forces de l'ordre dans la capitale. Mais Didier Lallement tient à le préciser, il ne s'agit pas de remettre en scène les voltigeurs dissous après la mort de Malik Houssekine en 1986.
Il ne s'agit absolument pas que les fonctionnaires ou les militaires qui sont embarqués sur ces motos agissent sur des opérations de maintien de l'ordre sur ces motos-là. C'est une doctrine de principe. Les fonctionnaires ou les militaires en descendent pour immédiatement se mettre dans des dispositifs de maintien de l'ordre. Donc les motos sont des vecteurs de rapidité, sont des vecteurs de déplacement extrêmement rapide. Parce que aujourd'hui, se déplacer dans une ville, dans n'importe quelle agglomération, sur 4 roues, est un problème.
Meilleure mobilité pour les forces de l'ordre, pour qu'elles se tiennent prêtes face au débordement. La crainte vient essentiellement des black blocs, très difficiles à appréhender par les forces de l'ordre.
Le black bloc n'est pas une organisation, c'est-à-dire c'est pas une structure, c'est pas un mouvement, c'est une pratique de la violence, c'est une pratique de la déstabilisation, c'est un moyen de lutter contre la démocratie. Donc ce sont des gens qui se rassemblent sous une même apparence, assez noire, et qui visent à attaquer, à se former, et immédiatement, dès lors que nous nous réagissons, à se remettre à l'intérieur des manifestations. C'est pour ça que nous ne pouvons arrêter ce type d'acteurs qu'à la condition qu'ils aient commis des dégradations. Et donc nous ne pouvons les interpeller qu'en flagrant délit.
Et en ce qui concerne les gilets jaunes, tout rassemblement de personnes se revendiquant de ce mouvement sera interdit, notamment sur les Champs-Élysées.
Antoine Marette, le cap du 1 million de soutiens est franchi pour le projet de référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Symboliquement, plusieurs dizaines de parlementaires de gauche et de droite se sont rassemblés devant l'Assemblée pour demander audience à Emmanuel Macron. Ils demandent que le seuil de soutien nécessaire pour valider la proposition de loi référendaire soit abaissé à 1 million au lieu des 4,7 millions de soutiens, c'est-à-dire 10% des électeurs inscrits, qui est le seuil actuellement exigé par la Constitution. Belle opération pour Airbus. Le constructeur aéronautique européen vient de décrocher un gros contrat. La compagnie américaine United, l'une des plus grosses des États-Unis, a passé commande de 50 Airbus A321 XLR pour un montant de 6,5 milliards de dollars pré-catalogue. Tout cela alors que les relations commerciales se sont tendues entre la France et les États-Unis depuis l'instauration de taxes par Washington sur le vin et l'aéronautique. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Elie Kiefer.
Alors pourquoi United a-t-elle choisi Airbus malgré ses taxes de 17% sur les avions venant d'Europe ?
Alors, cette commande est un véritable camouflet pour Boeing, car si United fait partie des plus grandes compagnies américaines à privilégier Airbus, c'est en grande partie à cause des difficultés du 737 MAX, toujours cloué au sol et interdit de vol après deux accidents mortels qui ont fait 346 morts. La compagnie ne peut plus attendre, car elle doit remplacer ses Boeing 757, qui arrivent en fin de vie, très anciens, ils ne sont plus viables économiquement parlant, car trop gourmands en carburant. Pour ne pas payer de nouvelles taxes de 17% instaurées par l'administration Trump, eh bien, l'avionneur américain va tout simplement fabriquer ses avions sur son site des États-Unis à Mobile, dans l'Alabama. Car les taxes ne sont valables que sur les produits finis, à condition qu'ils ne soient pas fabriqués en Europe. Les pièces détachées comme les moteurs, les sièges ou encore le fuselage ne sont donc pas concernées, même s'ils sont fabriqués en France. Avec ce nouvel appareil moyen courrier, qui sera capable d'effectuer des liaisons long courrier grâce à de nouveaux moteurs plus performants, United entend desservir des liaisons transatlantiques entre la côte est des États-Unis et l'Europe. Les premiers appareils seront livrés à partir de 2024.
Hakim Kasmi, triste anniversaire pour l'OTAN. Au cours du sommet des 70 ans de l'Alliance Atlantique, les dissensions entre alliés ont été exposées au grand jour. Notre envoyé spécial au Royaume-Uni, Bertrand Galichet, vient de suivre la conférence de presse finale d'Emmanuel Macron.
J'assume d'avoir lancé ce débat, cette réflexion stratégique sur l'avenir de l'OTAN, a dit le président de la République en tirant les leçons du sommet de l'Alliance Atlantique ici à Watford, près de Londres. De fait, si les termes du communiqué final sont un peu différents, ils reprennent en partie les propositions de la France pour repenser le rôle et les objectifs de l'OTAN. 70 ans après la création de l'organisation, 30 ans après la chute du mur de Berlin, la relation avec la Russie est à revoir. L'OTAN a une histoire mais aussi une géographie, a dit le président de la République, qui rappelle les violations par Moscou de plusieurs traités, notamment celui sur les armes nucléaires de portée intermédiaire. Faute d'accord en vigueur, il est important de renégocier avec la Russie, dit Emmanuel Macron, en prenant en compte les intérêts des pays de l'OTAN les plus proches du territoire russe. La discussion avec Moscou doit se faire au niveau européen, dit-il, et notamment avec l'Allemagne. Quant à la Chine, elle ne doit pas devenir l'objet désigné de notre défense, sous-entendu comme le conçoivent les États-Unis. Sur tous ces sujets, Emmanuel Macron a le sentiment d'avoir ouvert une brèche et créé un passage. Sur un tout autre sujet, le président a parlé de la présence de l'armée française en Afrique. La France y a obtenu des succès avec ses alliés européens, mais Paris demande maintenant aux États africains concernés de se prononcer clairement sur la présence française. Est-elle utile? Est-elle souhaitée? Pour répondre à cette question, Emmanuel Macron a invité le 16 décembre prochain à Pau les présidents des pays du G5 Sahel, Pau, où est basé le régiment de plusieurs des soldats français tués la semaine dernière au Mali.
Bertrand Galichet à Watford pour France Culture. Dans un contexte international déjà très tendu, Berlin expulse deux diplomates russes avec effet immédiat. L'Allemagne estime que Moscou ne coopère pas suffisamment dans l'enquête sur le meurtre d'un Géorgien dans un parc berlinois cet été. Une enquête qui s'oriente de plus en plus vers la Russie. Les précisions de Ludovic Piétenu à Berlin.
Tué de 3 balles en plein jour cet été dans le Tiergarten, un parc au cœur de la capitale, ce Géorgien qui avait trouvé refuge à Berlin avait auparavant servi en Tchétchénie contre les Russes. Le meurtrier présumé arrêté juste après les faits se trouve être un ressortissant russe, totalement silencieux depuis son incarcération, mais que les enquêteurs soupçonnent depuis d'être l'auteur possible d'un autre meurtre en Allemagne, celui d'un homme d'affaires russe il y a 6 ans. Mais Moscou le clame depuis 3 mois, cette affaire n'a rien à voir avec l'État russe et ses autorités. Berlin se montre d'un avis différent avec l'expulsion de ses 2 diplomates russes. L'Allemagne hausse le ton, quitte à abîmer ses relations avec Moscou. Et la reprise en main de cette enquête par le parquet fédéral, la plus haute autorité, revient pour Berlin à quasiment accuser officiellement la Russie d'un meurtre commandité en Allemagne. Cela rappelle l'affaire Skripal, peut-on lire dans la presse allemande, du nom de ce russe empoisonné en Angleterre en mars 2018. Un meurtre que la Russie a toujours nié.
Ludovic Piétenu. Ils se disent inquiets pour l'intégrité de l'enquête sur l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Des parlementaires européens sont en mission à Malte, 2 ans après le meurtre à la voiture piégée de la journaliste d'investigation, et la délégation juge préférable la démission rapide du Premier ministre. Or dimanche, Joseph Muscat a annoncé qu'il ne démissionnerait qu'en janvier, alors même que l'enquête s'étend désormais à certains de ses proches. Ce matin à La Valette, l'intermédiaire présumé, Melvin Thomas, témoignait pour la première fois au tribunal. Dans la salle, plusieurs membres de la famille de Daphne Caruana Galizia, dont 2 de ses fils et sa sœur, Corinne Vella, déterminée à obtenir justice. Écoutez-la.
Thomas on the witness stand under oath.
Thomas, qui témoignait sous serment, a attesté qu'il avait été invité à une réunion dans le bureau du Premier ministre. Cela a été arrangé par un homme du nom de Sandro Kraus, qui est toujours le secrétaire personnel du Premier ministre, Joseph Muscat, et il avait donc rendez-vous avec Keith Cambry quand Keith Cambry était encore chef de cabinet. Il a seulement démissionné la semaine dernière. Et l'objet de ce rendez-vous était d'offrir à Melvin Thomas un emploi payé par l'État et pour lequel il n'aurait même pas besoin de travailler.
To turn up to work. What this looks like is that he was offered a job as a way of.
Il semblerait qu'on lui ait offert cet emploi en échange de services rendus. Donc ce qu'on voit ici, c'est l'État utilisé pour payer un homme qui a avoué un meurtre. Et Joseph Muscat, l'actuel Premier ministre, est toujours en place. C'est très clair qu'il reste au pouvoir uniquement pour se protéger, lui et Keith Cambry. Bien sûr, je suis en colère que tout cela ait eu lieu, mais je n'éprouve rien vis-à-vis de ces hommes. Je n'ai rien à faire de gens qui sont des criminels. Je les méprise, qu'ils conduisent un taxi comme Melvin Thomas ou dirigent le gouvernement comme Joseph Muscat avec l'aide de Keith Cambry et Sandro Kraus. Je les méprise. Je pense simplement qu'ils doivent partir pour que le reste de la société puisse vivre sans leurs crimes.
Corinne Vella, sœur de la journaliste Daphné Caruana Galizia, au micro de Martin Roux à Malte. Le Saint-Siège et la communauté Sant'Egidio ont mis en place un couloir humanitaire entre le camp de Lesbos en Grèce et le Vatican. Il y a 3 ans, le pape François avait emmené 3 familles avec lui dans son avion après sa visite dans le camp grec. Et ce matin, 33 réfugiés ont été accueillis à l'aéroport de Rome. Ils vont être hébergés en Italie ou au Vatican. Le reportage de notre correspondant Bruce de Galzin.
La plupart d'entre eux sont afghans, des familles, des enfants. Esther, elle, vient du Togo. Elle a fui un mariage forcé.
Tout simplement, je voulais me sauver, c'est tout. Parce que j'ai vécu des moments très difficiles, horribles. Et j'étais recherchée, maltraitée, torturée. Je me suis enfuie pour venir en Grèce. Mais ce que j'imaginais, ce n'était pas ça. Je croyais que quand j'étais en Grèce, je pensais que non, ma vie était finie là.
Esther a vécu pendant 5 mois dans le camp de Lesbos, seule, à 24 ans, sans sa fille de 10 ans.
Ma fille, je ne sais pas dans quel état elle est aujourd'hui, mais je prie de la retrouver dans bientôt. Je n'ai pas de ses nouvelles pour le moment.
Esther vivra en Italie ou dans un logement du Vatican. C'est la communauté Sant'Egidio et le cardinal Krajewski, l'aumônier du pape, qui sont allés chercher ces réfugiés à Lesbos.
Commençons par les cardinaux, les évêques, les prêtres. Ouvrons nos maisons, nos palais. Il y a de l'espace pour un réfugié, pour une famille. Et à Lesbos, il n'y aurait plus personne.
En mai dernier, ils étaient 7 000. Aujourd'hui, ils sont 15 000, dont 800 enfants sans parents dans le camp de Lesbos.
En France, 5 associations spécialisées dans la défense des demandeurs d'asile demandent une enquête parlementaire. Elles dénoncent un scandale en cours au passage de nos frontières. Chaque jour, explique la CIMAD, Amnesty International, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et le Secours catholique, les droits humains les plus élémentaires des personnes exilées sont bafoués par les forces de l'ordre à Mantoue, Briançon, Hendaye, Calais ou Dunkerque. Depuis des mois, les associations interpellent sans succès le ministère de l'Intérieur. Elles se tournent donc maintenant vers les députés pour que la France respecte ses engagements et les droits humains fondamentaux, Cécile de Kervas-Doué.
Nous sommes là, au nom d'un territoire et de ses habitants, solidaires les uns des autres, solidaires d'exilés qui cherchent juste un endroit où ils pourront enfin vivre en paix.
Le scandale des migrants sur nos frontières décrit dans ce film de Muriel Cravatte est certes connu des habitants concernés aux frontières, mais pas forcément du reste des Français et encore moins des parlementaires. Pourtant, ces zones frontalières sont devenues de véritables zones de non-droit, s'indigne Marie d'Orléans, c'est la présidente de l'association Tous Migrants à Briançon.
On est confronté à des situations incroyables de chasse à l'homme noir dans la montagne. Il y a des recueils de témoignages qui précisent que des migrants ont été détroussés, se sont fait voler leur argent, pris leur téléphone, que leurs papiers d'identité ont été déchirés, que les déclarations qu'ils font ne sont pas retranscrites, en particulier sur leur date de naissance, quand ils sont mineurs. Il se trouve que très régulièrement, il y a des reconduites à la frontière illégale.
Depuis le nouveau gouvernement, le ministère de l'Intérieur refuse de rencontrer ces associations humanitaires. Alors, elles n'ont pas d'autre choix que de lancer lancer des poursuites en justice contre l'État français pour faire respecter le droit. Mais c'est un processus long et répétitif qui a ses limites, surtout lorsque les humanitaires sont eux-mêmes attaqués. Ce délit de solidarité a pourtant été balayé par une récente décision du Conseil constitutionnel, s'indigne aussi Lola Schumann d'Amnesty International.
Il y a une violence à l'encontre des personnes migrantes et réfugiées et également à l'encontre des personnes les aidant, ceux qui leur apportent la plupart du temps un soutien humanitaire, tout simplement distribution de thé parce que les personnes sont en hypothermie dans la montagne avec de la neige. Malgré une décision du Conseil constitutionnel de juillet 2018, des personnes sont toujours poursuivies dans le cadre de ce qu'on appelle le délit de solidarité pour délit d'entrée notamment, alors même qu'elles n'ont fourni qu'une aide humanitaire.
D'où l'idée de demander une enquête parlementaire afin que les députés constatent par eux-mêmes ces violations et fassent des propositions peut-être plus contraignantes que tous les rapports consultatifs déjà remis au gouvernement sur ce sujet. Dans le cas contraire, les associations préviennent, il faudra imaginer d'autres actions, explique Philippe de Botton, le président de Médecins du Monde France.
Moi, je pense qu'il faudrait une désobéissance civile non violente. Faire des sit-ins devant l'Assemblée nationale, des maraudes solidaires, faire des passages de frontières illégaux. C'est-à-dire que vous prenez 200 personnes migrantes et avec toute l'association locale et nationale, vous passez avec eux.
Parce que les associations le rappellent, en France, la majorité silencieuse des citoyens est favorable à l'accueil des réfugiés.
Cécile de Kervas-Doué, les prévisions météo pour demain jeudi. Temps calme mais souvent gris, il pleuvra le matin sur les Pyrénées-Orientales et toute la journée en Corse. Au lever du jour, il fera de moins 5 à plus 10 degrés du nord au sud. Les maximales atteindront 3 à 8 degrés sur la moitié nord, 8 à 16 plus au sud, jusqu'à 18 en Corse. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.